L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Si Mara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. Templiers. N'oserons pas vous attaquer si vous êtes en pleine lumière. Mais ils feront tout pour éviter que vous soyez élu. Ils sont très puissants et sont prêts à s'allier à ceux qui sont contre vous. Ils sont mis avec les francs-maçons pour renverser le trône lors de la révolution de 1789. On trouve une petite pièce dans un immeuble vétuste, une petite rue de Montparnasse. On mène Jean-François. Deux gardes des compagnons de Jéhu seront en permanence près de lui et vivront avec lui. Il doit éviter de sortir. Il reste enfermé. Jean-François étouffe et se demande s'il ne ferait pas mieux de s'évader et d'aller se cacher dans la France profonde. Les Templiers l'ont perdu. Ivre et Grégoire se demandent où il peut bien être. Les compagnons de Jéhu sillonnent la France pour les signatures. Ils vont dans les petits villages, dont le Meutier, dans l'Isère. Le brave maire, un paysan, un peu simple, mais roublard, et qui va leur donner des choses. Le maire veut, c'est que l'on reconstruise le château de Boxozel. Le compagnon va voir et lui dit qu'il ne reste rien. Il accepte pour avoir la signature. On lui propose aussi, c'est de refaire des chemins, mais des chemins en gravier, etc. Ils ont les 500 signatures. On dit à Jean-François de présenter sa candidature. Et prêt à poser les questions. Il va présenter au Conseil constitutionnel sa candidature et 500 signatures. Les journalistes sont là. On lui dit qu'il se présente, mais qu'il a été accusé d'un crime, et de crime terrible. Il dit aux journalistes qu'il n'ait pas été qu'il a été libéré et innocenté. Donc il a le droit, que rien ne l'empêche, de se présenter aux élections. Mais tout de même, le crime, ce n'est pas moi. Vous avez quoi comme programme? Une seule France, souveraineté de la France et défendre les démunis. Votre parti, la France. Sans parti, je vous ai dit la France, c'est-à-dire au-dessus des partis. Qui êtes-vous? Descendant direct de Philippe le Bel, l'Henri, un illuminé. Le peuple ne rit pas, les Templiers non plus, mais ils ne peuvent rien faire. Il est trop dans la lumière, on ne peut pas attaquer ses idées. Personne ne le prend au sérieux, les gens rient. pour les élections, il y a toujours un prétendant qui n'est pas très sérieux. On ne fait pas attention à lui. On le change de lieu, un appartement plus confortable. Affiche, réunion. Presque personne aux réunions. Il présente son programme. Il parle des pauvres, lui aussi et comme eux. Du chômage, de la souveraineté de la France. Il se met au niveau des petits, etc. Un ou deux journalistes l'écoutent et écrivent ce qu'il a dit. Ils le trouvent intéressant. Ils en parlent à d'autres. Et il y a de plus en plus de journalistes qui vont l'écouter. Les journalistes font des papiers sur lui, sur ses idées. Les gens entendent parler de lui et de ses idées. Aide des pauvres. La France, sa souveraineté. Les gens vont petit à petit le voir au meeting. Pour les discours, il est obligé d'apprendre par cœur ce qu'il a à dire. Jean-François, ça ne l'intéresse pas. Puis petit à petit, il se met à faire des scènes. Puis, comme il apprend ce qu'il a à dire, comme c'est proche de lui, de ce qu'il a été, il se sent intéressé à ce qu'il dit. Puis dans les meetings, on lui fait raconter sa misère, son enfance d'orphelin, etc. Il en parle avec sincérité et les gens sont émus. Les gens viennent pour l'entendre parler de sa vie misérable autant que pour son programme. Il est un peu comme un Dickens lisant ses livres. D'ailleurs, son histoire ressemble à du Dickens. Les gens se sentent près de lui. Il y a de plus en plus de monde à ses meetings. Cela fait rire les autres. On traite les gens qui vont à ses meetings de simples d'esprit, de liseurs de romans populaires. Les gens qui vont à ces meetings s'en indignent et se sentent près de Jean-François. Jean-François n'a plus de temps de vie à lui. Entre ces meetings qu'il doit préparer, les invitations, il vit comme une vedette, soirée, etc. Il n'a pas une minute à lui, ça le fatigue. Un jour, vient le voir en manche à un de ses meetings. Ils sont émus de se retrouver. Il se sauve avec elle, passe un moment de liberté et lui demande ce que c'est que tout ça. Il lui raconte tout et lui dit qu'elle a eu comme ami un prince. Il lui dit non, un ami. Ça c'est rien. J'ai pas de temps à moi. Je regrette le temps où j'allais chez toi, passer les soirées ensemble. Ils vont jusqu'à chez elle, puis ils la quittent en se promettant de se revoir. Sa popularité augmente, ce qui ennuie les autres candidats. Ils ont beau le démystifier, rien n'y fait. La Jean-François Mania est là. Ses meetings gonflent. Les compagnons de Jéhu font tout pour ça. Le comte de Paris dit qu'il est le seul descendant et prétendant. Jean-François montre son arbre généalogique. Le comte de Paris dit que c'est de la foutaise, qu'il n'y a pas de preuves. Il veut l'éliminer. Fait une petite manifestation pour dire qu'il est un imposteur, mais ça ne marche pas chez le peuple. On demande des rois qui vivent comme le peuple. C'est quelque chose. Il passe à la télévision et répond aux téléspectateurs. Il dit à Georges qu'il a la tête qui va exploser et qu'il a besoin d'un ou deux jours de repos. Georges accepte et lui trouve en Bretagne un petit village, une maison. Il y va. Les journalistes l'apprennent. La foule arrive. On le monte sur la plage, marchant, seul. Mais loin, il y a les journalistes. L'on dit qu'il se prépare, réfléchit. Les gens accourent. Le peuple veut lui parler. Il dit qu'il se repose, mais parle un peu. Il est furieux et décide de rester à Paris. À son retour, en voiture, la voiture ne répond pas, ne répond plus. Il a eu un accident. Mais il est sauvé. Un attentat, on l'apprend. Fleur, message. On lui écrit. L'on dit que les autres candidats sont des mauvais perdants. Même le président de la République lui envoie un message de rétablissement. Georges lui dit, faites attention aux Templiers. Jean-François est fatigué. Il reste le même. Il se demande si sa ancienne vie valait pas mieux que celle-là. Pourquoi ne pas retirait-il pas? Il dit à Georges, trouvez-vous un autre prétendant.
Et qui?
Ben disons, prétendant des... Dagobert, celui qui a été assassiné.
Alors je lui dis, non, et puis les gens sont habitués à vous. vous devez à la France.
Et la France, que va-t-elle me donner? J'en ai assez. J'ai pas de vie privée. J'aimerais, c'est tout quitter. Je dis qu'il les jouait des autres. Pour les ennuyer, il leur dit « Et qui vous dit que je ne suis pas l'assassin ?» On lui dit que c'est trop tard, qu'il ne peut pas reculer. Il leur dit « Alors, vous pouvez mettre sur le trône un criminel parce que vous ne pouvez pas vous rétracter ?» Georges lui dit « Selon vous, si on n'est plus avec vous, si on se rétracte, des tas de gens ne croiront à rien et seront pris par les autres candidats. Vous allez créer l'anarchie. » François lui dit, c'est peut-être mieux que de mettre un imposteur. Je lui dis, n'êtes pas un imposteur. Pourquoi? Parce que c'est nous qui voulons vous mettre où vous êtes. Laissez-vous aller. Vous êtes fatigué. Comme nous tous. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. François lui demande, et après? Je lui dis, après, ce sera pire, parce qu'il faudra mettre votre programme en place. Jean-François dit, alors je n'aurai plus de temps à moi, je serai prisonnier. Georges lui dit, non, votre vie appartiendra à la France. Le roi se dépouille de tout ce qu'il a et reste nu. Il donne son temps à son pays. Régner, c'est ça. Le roi n'a rien. Et tout est à lui. Tout est à lui symboliquement. Jean-François lui dit, ce qui me fait, c'est de me laisser vagabonder. Là, j'étais plus libre. Je lui dis, oui, mais ce n'est pas. Bon, pour la France. Pour les Français. Sacrifier sa liberté. C'est bien, peu de choses. François lui dit, pas pour moi. Il se rebelle, réécrit ses discours, ferme la porte de sa chambre, à ses conseillers. Sort sans prendre de garde du corps. Oui, sort sans prendre de garde du corps. Un jeune homme d'un 36 ans, maigre, sale, visage dur, habillé d'habits noirs déchirés, cheveux longs sales, interpellé par des policiers dans le métro parce qu'il n'a pas composté son billet. Il n'en avait pas. Oui, il n'en avait pas. L'homme se met à insulter les flics. Et il se met à les tabasser. Des jeunes voient la scène. Comme c'est un jeune qui a une altercation avec la police, et comme les jeunes s'entraident, ils accourent pour le... Et l'homme est tabassé à police. Ceci crée une émeute. D'autres policiers viennent. Bagarre, blessure. On en profite pour essayer de piller les magasins en brisant les vitres. Dégâts de matériel. Grosse bagarre. Oui, gros dégâts de matériel. Ça dure. La jeunesse n'a pas de morale. Ils ne pensent qu'à eux et s'entraident. Pour eux, le vol, tabasser un flic ou autre, c'est normal. Tout est bon pour foutre la merde et tâcher de voler. Oui, tout est bon pour foutre la merde et tâcher de voler. La police a réussi à arrêter l'émeute, plutôt la bagarre, a arrêté l'homme et quelques jeunes. La police est obligée de libérer les jeunes qu'ils ont arrêtés, sauf l'homme et le garde. On apprend qu'il est sans papier, interdit de séjour parce qu'il a provoqué plusieurs actes de violence. La jeunesse ne cherche pas à défendre une personne. Elle aide n'importe qui, même les personnes qui ne sont pas dans leurs droits. Ce qui compte, c'est créer le bordel pour voler et casser. Les jeunes sans foi ni loi qui se défendent que pour leur propre intérêt font chanter la société. Ne touche pas aux jeunes, autrement on casse tout. Si un jeune est arrêté et jugé, on fait chanter le juge et on met le feu au quartier, etc. Et les juges, la police, qui ont peur parce qu'ils ne sont pas soutenus par la population, libèrent l'homme ou le jeune homme. Si un jeune qui a volé avec ses copains est poursuivi par la police et que ce jeune a eu un accident mortel, tout le quartier se rebelle et l'on attaque la police. La police devient coupable et responsable de la mort de ce jeune. Tout le quartier pleure et menace. La police est jugée et l'on fait des voleurs des victimes de la police. Si des jeunes volent en voiture et sont poursuivis par la police, qu'il y a un accident, parce que ces jeunes ont refusé de répondre aux ordres de la police, ils sont responsables de ce qui leur arrive. Être tué parce qu'on est poursuivi pour un vol, c'est les risques du métier. L'on dit un jeune, lorsqu'il y a un problème, même si le jeune a 36 ans. Mais moi, je trouve qu'après 30 ans et même à 21 ans, l'on est un homme. Autrement, on est un débile. Lorsqu'il arrive des choses comme ça, les partis de gauche défendent les voleurs et attaquent la police. Les victimes sont les voleurs. Ils ne s'occupent jamais des victimes ni de la police. On ne parle jamais de celui à qui on a volé sa voiture. Le pauvre, sans voiture, qui va perdre son emploi. S'il ne peut pas aller à son travail, parce qu'il faut une voiture pour aller à son travail. Ou alors qu'il a besoin d'une voiture pour travailler. Non, on ne parle jamais des victimes à qui on a volé la voiture. Il n'existe pas. Personne n'en parle. Jean-François a suivi ça et dit ce qu'il en pense de la justice de gauche intello. La gauche le traite de fasciste. La police dit qu'il a raison et la majorité silencieuse l'approuve. Pour montrer qu'il n'est pas contre les jeunes, il va les voir dans les écoles, leur dit qu'ils sont des victimes de la société, qu'on les a donnés au commerce et industriels, qui vont devenir malgré eux des consommateurs, mais qu'il doit refuser ça. Leur explique qu'ils doivent se débrouiller. Donc à réfléchir avant d'acheter des choses. Et qu'au nom de la loi, ils s'habillent n'importe comment. Qu'au nom de la mode, ils s'habillent n'importe comment. Que pour se désennuyer, il faut faire marcher son imagination, créer, jouer, s'instruire, que si la France est à la traîne pour les inventions, c'est à cause que les jeunes ne savent plus imaginer, rêver, créer, et ils prennent des choses toutes faites. Tout ça, c'est mauvais. La lecture est un bon loisir. Oui, la lecture est un bon loisir et même un sport pour le cerveau, parce que le cerveau n'a pas été préparé pour décrypter des signes qui sont des lettres. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.